I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Notre dernier invité s'est également fait connaître au début des années 2000 en proposant sa version d'une histoire légendaire. Donc ce soir, c'est également d'une légende dont il va venir nous parler. Une légende qui, cette fois-ci, est liée à son histoire familiale. Il va venir nous raconter une histoire de grand méchant loup. Il nous fait l'honneur, ce soir, de revenir sur scène pour la première fois depuis son précédent spectacle qui s'appelait l'Exoconférence. Merci d'applaudir Alexandre Astier.
Bonsoir. J'ai dans mon téléphone et sur mes ordinateurs un dossier qui s'appelle Élise. Et quand il me vient une idée comme ça sur comment bien raconter une histoire, je sais pas, une réflexion, une observation, un truc que je vois qui me plaît chez quelqu'un ou qui me plaît pas d'ailleurs, et ben je me fais une petite note comme ça. Et puis cette note, je la mets dans mon dossier Élise. Et puis alors après, quand j'écris un scénario ou un texte, et ben je prends une note comme ça de ce dossier, je le lis. Des fois, je comprends rien à ce que j'ai voulu me dire, mais je sais qu'au moment où j'ai mis cette note, ça me paraissait très important de ne pas l'oublier. Voilà. Et il s'appelle Élise parce que Élise, c'était mon arrière-grand-mère. C'était la grand-mère de mon père. Elle était née en 1898 dans le Gévaudan. Et je la côtoyais beaucoup quand j'étais tout petit. Je passais mes vacances là-bas. Et on passait toutes nos journées ensemble. C'était une mamée, comme on dit là-bas, à peu près parfaite. Avec des cheveux blancs tirés en arrière, en chignon, un tablier à fleurs impeccable. Le sourire toujours aux lèvres. Alors on allait s'occuper des lapins, des poules. On cueillait des framboises. Et on passait surtout des heures entières sur une terrasse. C'était sur une colline, donc on dominait la vallée comme ça, et elle avait un chat sur les genoux, et moi je jouais aux petites voitures sur la toile cirée, sous la treille, des heures et des heures. Et puis quand je sentais que le moment était venu, je lui disais « Mamé, est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ton grand-père qui était allé faire cuire du pain au village ?» Alors là, d'un coup, son visage souriant s'assombrissait et elle rentrait d'un seul coup en empathie parfaite avec son grand-père et sa mésaventure. Et elle m'expliquait que son grand-père, à cette époque, ils étaient très pauvres, donc quand le village allumait le four pour cuire le pain, tout le monde, des maisons environnantes, allait au four pour cuire leur pain. Donc son grand-père était parti avec sa pâte à pain dans son torchon et il avait dû traverser un sous-bois enneigé pour atteindre le village. Il avait passé la journée au village, il avait cuit son pain et quand le jour avait commencé à décliner, il s'était ramassé, comme on dit dans les Cévennes, ça veut dire rentrer chez soi. Et quand il commence à rentrer dans ce sous-bois enneigé pour rentrer chez lui, et là, Élise se retournait vers moi comme ça, pour la première fois, et elle me disait: il a senti que quelque chose le suivait loin derrière lui. Oh, les gars! Oh, j'étais extraordinairement terrorisé. C'était génial. En fait, j'avais peur du noir quand j'étais tout petit. Pas le seul, j'imagine. Et en fait, quand on dit la peur du noir, c'est donc la nyctophobie. C'est pas vraiment la peur de l'obscurité, c'est la peur de ce que l'obscurité peut dissimuler. Et dans mon cas, à moi, l'obscurité ne dissimulait qu'une seule chose, c'était Zeke Midas, le grand méchant loup anthropomorphe et anthropophage de Disney, avec son museau extrêmement long, son nombre de dents incalculable. Curieusement, son chapeau haute forme cassé, sa salopette rapiécée, sa petite valise de médecin, de marchand, je ne sais pas, abîmée aussi, et une paire de gants blancs. J'étais fondamentalement horrifié par Zeke Midas. Et j'avais là, pour moi, rien que pour moi, quelqu'un qui me racontait une histoire et qui avait été bergère elle-même dès l'âge de 10 ans, dans les premières années du XXe siècle, et pour qui le loup avait été le véritable péril tangible quotidien. Pas un fantasme, le vrai problème de sa journée. Alors évidemment, avec un pédigré pareil, c'est normal que je me sois passionné assez tôt pour la bête du Gévaudan, bien sûr. Donc mon père m'a filé ce virus-là. Et puis moi, j'ai continué, c'est-à-dire que j'ai fait tout un tas de recherches, j'ai été embêté tout un tas de consultants, de spécialistes, surtout des zoologues, des éthologues, des spécialistes du loup, des spécialistes du chien, des spécialistes de la rage, des spécialistes du Gévaudan, des spécialistes de Versailles et de Louis XV, évidemment. Des spécialistes des voyages en ce temps-là, et puis je suis allé aux archives départementales du Gard, de la Lozère, de l'Ardèche, de même partout, etc. Et je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose sur la bête du Gévaudan, parce que c'est quand même une matière de fou, cette bête du Gévaudan. Alors je me suis dit, je vais écrire une série, certainement une série, une mini-série, quelque chose, 5, 6, 7 épisodes, je ne sais pas. Et je décide de prendre le héros de cette série. J'avais décidé que c'était le fils François-Antoine, le porte-arquebuse de Louis XV, qui a vraiment existé, qui a été envoyé dans le Gévaudan pour tuer la bête. Il a échoué, d'ailleurs. Et je l'avais affublé, petite licence d'auteur, de la peur du noir. Et je lui avais donné l'antidote contre la peur du noir, sous la forme, j'avais fait des petites recherches, de laudanum, l'opium liquide. Parce que je m'étais dit, tant qu'il est à Versailles, il va combattre sa peur du noir avec cette drogue. Mais quand on va l'envoyer dans le Gévaudan et qu'il pourra plus se fournir là-bas, il va être obligé d'affronter la bête du Gévaudan en plein sevrage, sans rien, pour combattre sa peur du noir. Et ça me faisait très envie, cette idée. Sauf que le problème, c'est que moi, qui n'ai jamais fumé une cigarette, jamais bu un verre d'alcool, évidemment, aucune drogue, bien entendu, j'étais un peu léger pour parler de ce sujet-là. Donc il m'a fallu un consultant de plus, que j'ai trouvé, qui s'appelait, il est mort depuis, Jimmy Kempfer. C'est un homme extraordinaire, spécialiste des drogues, spécialiste de leurs conséquences géopolitiques, spécialiste de leur histoire, de leur provenance, et qui a écrit un nombre de bouquins incalculables sur le sujet, un type érudit sur toutes les drogues. Il me reçoit chez lui, et je passe l'après-midi avec lui. Il m'explique dans un premier temps que le laudanum, c'est pas un mauvais choix. Effectivement, à Versailles, en 1764, 5-6, c'était tout à fait possible que quelqu'un puisse se faire venir du laudanum, peut-être que ça se serait pas appelé comme ça, mais en tout cas de l'opium liquide. Oui, et effectivement, ça a pour vertu d'apaiser les peurs et d'apaiser les douleurs. C'est pas bête comme idée. Donc il m'explique que ce laudanum serait probablement venu de Turquie à cette époque-là. Et puis il m'explique tout ce que c'est que l'opium, tout ce que c'est que les opiacés, tout ce que c'est que, évidemment, l'héroïne, la morphine, l'opium. Il s'allonge au milieu de son salon, comme ça, et puis alors il fait semblant, il n'avait pas d'opium, et il me dit, voilà, on fumait l'opium comme ça, il met sa tête sur une espèce de repose-crâne en porcelaine, là, comme il faisait en Chine. Il me montre des dessins, des gravures, des estampes, des trucs. Bref, un après-midi passionnant sur l'opium. Et puis, quand il est venu le temps de nous séparer, il me dit, mais tu vas jouer le premier rôle, toi. Je sais pas, c'était pas exclu, mais pourquoi? Ben, il me dit, parce que les explications, c'est bien beau, mais il va falloir que tu connaisses ça de l'intérieur. Il dit, bouge pas. Et il va me chercher, il revient avec une boule noire comme ça, on aurait dit de la pâte à modeler un peu. Il me dit, tiens, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, bah, de l'opium. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ça? Bah, tu la manges. Alors, je vais la manger, donc pas. Non, chez toi, tu la mangeras chez toi. Bah, commence par la moitié quand même, d'abord. Tu vois comment ça se passe, et puis après, tu rajoutes l'autre moitié. On était sur une posologie approximative quand même, hein, on est d'accord? Donc voilà, je prends ça. Et puis il va ouvrir une petite armoire à pharmacie très jolie dans son couloir, une armoire marketée, décorée, très belle. Et il sort une ampoule comme ça, avec un liquide jaune dedans. Et il me dit, tiens, Ça s'appelle pas du laudanum, mais c'est de l'opium liquide. Donc c'est exactement l'effet que tu cherches, si tu veux connaître ce que c'est. Alors je prends ce truc-là, et puis il y avait marqué 1927 dessus. Je lui dis, Jimmy, 1927, on est... Oui, dit, c'est la date de péremption. D'accord, donc on est d'accord que le mot péremption, en 1927, ça voulait déjà dire péremption, on est d'accord, c'est la même chose. Mais t'inquiète pas, les produits comme ça, ça périme jamais, ça peut durer 200 ans, etc. Ben vous savez quoi, j'avais envie de faire confiance à ce gars. Il était tellement érudit que... Bon, je le remercie, je pars avec mon matos dans mon sac à dos. Il dit, attends, je vais te donner une boîte quand même. Merci. Et alors du coup, il part dans son appartement, il dit, tiens, ça y est, j'ai trouvé. Il me donne une boîte, c'était une boîte de méthadone, le substitut de l'héroïne. Moi, on est d'accord que si je vais chercher une boîte chez moi pour envelopper quelque chose pour un copain, il y a plus de chances que ce soit des chocs à pic ou quelque chose. Lui, le premier truc qu'il trouve, c'est de la méthadone. Bon, c'est pas faire insulte à sa mémoire que de dire qu'il avait probablement essayé toutes les drogues pour les connaître à ce point-là. Et c'était un type extraordinaire. Et pendant que je marchais avec mon petit sac à dos, je me disais, qu'est-ce que je vais foutre de ça? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer chez moi en Ardèche, là-bas, dans mon château. Je vais attendre que les enfants soient pas là, qu'il y ait personne. Je vais m'asseoir, je vais poser ce truc sur la table, je vais mettre une caméra qui tourne et puis je vais bouffer ça. Je sais pas. Et puis la caméra, c'est pas mal. Si jamais les gendarmes m'arrivent et puis qu'ils me trouvent décédé dans ma piste, ils vont comprendre ce qui s'est passé. Du coup, s'ils se repassent le truc, là, on sera bien. Bah, je rentre chez moi à Lyon dans un premier temps et je mets tout ce bazar-là dans une boîte à chaussettes dépareillées que je mets elle-même en haut d'une armoire et puis j'oublie, je pense plus à ce truc-là. J'étais, c'est pas que j'avais peur, mais j'avais peur de pas revenir ou j'en sais rien. En tout cas, j'y suis pas allé. Et puis à un moment, je me souviens de ce truc-là. Alors je vais chercher cette boîte. Il y avait moins de chaussettes dépareillées dedans et plus du tout la cam. Je pense qu'il n'y a rien de terrible là-dedans. Je pense que ma femme de ménage, qui en a eu un jour ras-le-bol des chaussettes dépareillées, s'est dit, tiens, je vais essayer de trouver des paires. Elle avait fini par trouver quelques paires. Il y avait moins de chaussettes. Elle avait trouvé une boule de pâte à modeler séchée. Elle avait foutu la poubelle. Et une ampoule qui périmait en 1927. Elle s'est dit, c'est bon, ils ne vont pas s'en servir. Donc, j'ai perdu tout ce bazar-là. Voilà, retour case départ en ce qui concerne le laudanum. Le grand-père d'Élise... Quand il a osé se retourner, il s'est rendu compte qu'il était suivi par un loup solitaire, en période de neige. Et là, ma grand-mère me disait, tu sais, un loup, il sautera jamais sur un homme comme ça. Mais un loup affamé, qui s'adresse à un vieil homme, ou à un enfant, ou quelqu'un qui est affaibli, si jamais il arrive à trouver le courage en lui de lui sauter dessus, ça peut arriver. Surtout si jamais l'homme tombe. Et mon grand-père faisait très, très, très attention en marchant de ne jamais trébucher sur une racine. Parce que s'il était tombé, le loup l'aurait attaqué. Alors, le grand-père d'Élise a commencé à détacher de son pain un morceau. Il s'est retourné et il a jeté au plus loin possible le pain derrière le loup. Et effectivement, au début, ça a marché. Le loup s'est retourné. Il est allé chercher le morceau de pain. Et le grand-père, pendant ce temps-là, a visé droit devant lui et il a marché plus vite. Au plus vite qu'il pouvait, sans prendre le risque de tomber. Zeke Midas, le grand méchant loup, il y a plusieurs solutions. Soit il nous fait peur parce qu'il rôde, soit il nous fait peur parce qu'il attend. Soit il nous fait peur parce qu'il est déguisé. Peut-être avec les vêtements d'une victime à lui, un médecin, un riche marchand. Et qu'est-ce que c'est le message aux enfants là-dedans? Le message, c'est quoi? Il faut se méfier des gens qui rôdent ou qui se font passer pour respectables, pour en profiter pour vous approcher. C'est probablement quelque chose comme ça. Ce n'est pas ma version préférée, mais c'est sûrement quelque chose comme ça. Un peu après avoir rencontré Jimmy Kempfer, je joue un spectacle sur Jean-Sébastien Bach à Bordeaux, au Théâtre Fémina. Et le Théâtre Fémina a la particularité d'être comme celui-ci, il a un tapis de danse par terre. Et moi, avec mes escarpins du 18e, je glisse. Et au moment où je glisse, j'entends clac, et c'est mon cinquième métacarpe qui se détache de mon pied. Alors je vais voir un chirurgien dans les jours suivants en disant, lui me dit, faut qu'on vous opère, faut qu'on vous mette une vis dans le pied. Je dis oui, mais moi je joue dans une semaine. Il me dit non, pendant un mois vous faites rien. Je dis si, je joue dans une semaine. Donc du coup, j'ai joué avec des béquilles. D'ailleurs, la captation de ce spectacle, j'ai des béquilles. C'est pas pour faire joli, c'est parce que j'ai le pied pété. Et je rencontre donc avant mon opération en urgence un anesthésiste. Et du coup, je lui dis tiens, gros, je vais te raconter un petit peu mon histoire. Et on va voir si tu peux pas faire quelque chose pour moi, qui ne fume, ni ne boit, ni se drogue, pour me faire connaître les effets du laudanum. Alors je raconte toute l'histoire que j'ai racontée à Jimmy Kempfer, à ce gars-là, qui m'écoute avec beaucoup d'enthousiasme, et qui me dit, écoutez, monsieur Astier, on va faire quelque chose pour vous, c'est cool, oui, très bien. En revanche, lundi, c'est pas moi au bloc. Alors je transmets tout ça à mon confrère, il s'occupera de vous, ça va aller très bien. On arrive à lundi. J'arrive au bloc, allongé sur le ventre, avec ma Charlotte, sur un brancard, sur le ventre, parce que j'avais pas voulu d'anesthésie générale, donc il fallait m'anesthésier là derrière, sur le genou. Donc je suis sur le ventre, comme ça, avec ma Charlotte, et l'anesthésiste numéro 2, le confrère du premier, me dit « Ah oui, d'accord, oui, je me souviens. » Et il s'assoit à un bureau, comme ça, et il y avait sur le mur tout un tas de petits tiroirs, comme ça, qui tiraient, avec des produits dedans qui secouaient, comme ça, qui mélangeaient. Et puis il s'approche de moi avec une petite fiole, il la visse dans le cathéter que j'avais planté dans la main comme ça, et il dit vous êtes sûr? Ah mon petit bonhomme, c'est à toi d'être sûr, moi j'en sais rien du tout. Sûr de quoi? Sûr de... vous savez, là plus forte, je peux pas. Et il me dit déjà là je dis banco, je sais pas, banco, on va bien voir quoi. Et puis au moment où je dis banco, je me rends compte qu'en fait le premier anesthésiste a certainement raconté très bien l'histoire, mais lui en fait, je crois qu'il a pas écouté le détail. Il a entendu cartonne-le, cartonne-lui sa gueule et on verra bien. Donc il fait, il enlève le truc, il dit comptez jusqu'à 3. J'ai fait 1, j'ai jamais pu compter jusqu'à 2. Je me suis effondré de tout mon corps sur le brancard, bam, comme ça. J'avais l'impression que 20 personnes me montaient dessus. J'étais écrasé, littéralement écrasé contre le brancard. J'essayais d'ouvrir les yeux, je ne voyais rien. Je vais pas vous mentir, j'étais dans un plaisir absolument absolu, évidemment. Et j'ouvrais les yeux comme ça, je comprenais rien. Toute la pièce valsait dans tous les sens. Je voyais double. Alors vous allez me dire, oui, quand on picole, on voit double. Non, je voyais double. La population du bloc opératoire avait parfaitement doublé. On était 2 fois plus. Incroyable. Quelque chose d'absolument dingue qui n'a bien entendu rien à voir avec le laudanum ni aucun opiacé, qui m'a permis tout de même de me faire opérer en regardant ma propre opération à la télévision. Visser, scier, couper, mettre des équerres, que sais-je. Mais opération blanche pour cette affaire-là. Je suis remonté dans ma chambre. Et la nuit, je me fais réveiller dans mon sommeil par la douleur, parce que le pied, ça fait quand même assez mal. Et puis, je dis, essaye de tenir le coup. Franchement, c'était chiant. Alors, j'appuie sur la petite sonnette, et puis l'infirmière vient me faire une piqûre de morphine. Et là, pour le coup, la morphine, oui, ça, c'est du laudanum. C'est exactement le même produit, injecté, bien sûr, pas digéré, mais la sensation elle-même. Alors, du coup, j'ai sorti mon téléphone, et je me suis filmé sous laudanum. Je vous le montrerai pas, mais mais je vous jure que ça existe. Et donc effectivement, c'est très curieux le laudanum, parce que votre douleur ne disparaît pas, elle est toujours là. Vous avez toujours très mal, sauf que vous vous en foutez. C'est assez extraordinaire, c'est-à-dire que la douleur n'a plus aucun caractère d'urgence, elle ne vous gêne pas. Vous vivez avec la douleur et vous vous en foutez. Je comprends qu'il y ait des gens qui, quand les effets passent, ont envie d'y retourner, bien sûr. Le grand-père d'Élise, quand il est arrivé au bout du chemin et qu'il a commencé à voir les toits de sa maison, la lumière et la fumée à la cheminée, il avait presque plus de pain. À chaque fois qu'il avait arraché un bout de pain et jeté le bout de pain derrière le loup avait été le manger. Le problème, c'est que le loup s'était rapproché plus près de lui à chaque fois et qu'il commençait à s'habituer à la présence de l'homme. Et c'est là qu'il devient extrêmement dangereux, surtout en période de disette. Et le grand-père hésitait entre marcher vite, économiser du pain, Et finalement, il s'est retourné et le loup était parti, probablement intimidé par les maisons. La théorie qui me plaît, moi, en ce qui concerne Zeke Midas, je vous la donne, c'est qu'il ne s'est pas déguisé. C'est que ce sont ses habits. Et qu'il avait peut-être un statut, ce type-là. Marchand, médecin, notable. Et qu'il l'a perdu. Et ça, moi, ça me fout une trouille bleue. Et c'est peut-être ça le message aux enfants. Méfiez-vous des gens qui avaient un statut, qui l'ont perdu et qui ne l'admettent pas. Merci de m'avoir écouté.